Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Paris, la mère de toutes les batailles. Bonjour Bertrand Gréco.
Bonjour.
Vous êtes journaliste en charge de la politique parisienne au journal du dimanche. Vous êtes l'auteur de deux livres sur les municipales à Paris. L'histoire secrète d'une élection capitale, c'était en 2014 aux éditions du Moment. Et 2008, la bataille de Paris aux éditions de l'Archipel en 2008. Et puis par ailleurs, vous co-dirigez le magazine Grand Paris Développement. Alors on se méprend sur la vraie date de la libération de Paris. Elle n'a pas eu lieu le 25 août 1944. Elle aura lieu le 22 mars 2020, car Paris est occupé depuis 5 ans déjà par Anne Hidalgo. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire du nombre et de l'hostilité de ses opposants, bientôt ses rivaux, qui lui reprochent en vrac les bouchons, la saleté, la délinquance. La liste est déjà longue de ceux qui veulent libérer la capitale lors des prochaines municipales. À coup sûr, de toutes les élections locales, celle-ci sera la plus suivie, pas seulement parce que les médias nationaux sont tous à Paris, mais parce que la ville est un cas à part dans la vie politique française. Longtemps, elle resta sans véritable maire, jusqu'à ce que Jacques Chirac en devienne le premier magistrat en 1977. Être maire de Paris, c'est avoir du pouvoir, plus de 2 millions d'habitants, le siège des principaux lieux de décision. Chaque nouveau président de la République rend d'ailleurs d'abord visite aux locataires de l'hôtel de ville lorsqu'il prend ses fonctions. Elle participe aussi au premier plan de l'image de la France à l'international. Alors Paris, la mère de toutes les batailles, c'est donc le thème de ce premier numéro de notre troisième saison de Politique en votre compagnie Bertrand Gréco. Vous allez avoir du travail pour les 6 prochains mois parce qu'il y a une profusion de candidats ou de potentiels candidats, Benjamin Griveaux, Cédric Villani, Gaspard Ganzer, Rachida Dati, David Belliard, Yann Brossa, Dominique Simonet, j'en perds mon souffle, Anne Hidalgo, Jean Messia, Pierre-Yves Bournazel, et on murmure même le nom d'Édouard Philippe. Est-ce que ça se passe toujours comme ça pour les municipales à Paris?
Ça se passe toujours comme ça parce que, comme vous l'avez dit, c'est la mère des batailles, c'est une ville extrêmement convoitée. À chaque élection, depuis 1977, la dernière en 2014 a été extrêmement tendue entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo. La précédente, les deux précédentes avec Bertrand Delanoë. Et effectivement, cette ville est tellement convoitée que les candidats sont toujours extrêmement nombreux.
Même si le paysage devrait s'éclaircir, hein, sans doute, au fil des semaines et au fil des mois. Alors pourquoi est-ce qu'ils la convoitent autant? Eh bien, comme souvent, c'est Rachida Dati qui répond à cette question avec le plus de franchise.
Maire de Paris, Rachida Dati, ça rime.
On en a parlé, oui. Si c'était si simple, oui. Je vous dirais oui tout de suite.
Mais vous êtes candidate?
Non, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, quel est l'élu de Paris qui ne rêve pas du mandat de maire de Paris? Tous. Celui qui vous dit non, il ment. Parce que c'est un très beau mandat, c'est la plus belle ville du monde, moi je considère. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux, et des enjeux très intéressant. Oui. Qu'il soit écologique, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit en termes de propreté, qu'il soit... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Paris a besoin d'alternance. D'accord. Donc, à nous de nous organiser pour gagner.
Voilà, Rachida Dati, qui était l'invité du Talk Le Figaro, c'était il y a un an, le 25 septembre 2018. Bertrand Gréco, tous les élus rêvent, convoitent cette ville. Est-ce que ça tient d'abord à son prestige, peut-être, et à son prestige, avant tout, international? Être maire de Paris, c'est être le maire d'une des plus grandes ville du monde et d'une des principales destinations touristiques.
Oui, évidemment, c'est une visibilité incroyable dans les médias, à l'international, vous le disiez. Tous les chefs d'État qui viennent en visite d'État en France se rendent à l'hôtel de ville. D'ailleurs, un des salons comporte une vitrine avec des parchemins signés par tous les chefs d'État du monde, du pape à la reine Elisabeth.
Mais c'est un passage systématique.
C'est systématique pour les visites d'État. Donc c'est une visibilité, c'est aussi évidemment beaucoup de pouvoir, vous l'avez dit, 2,2 millions d'habitants, une énorme machine de 52 000 fonctionnaires territoriaux, un budget de 8 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois plus qu'un ministère moyen. Donc forcément, l'homme ou la femme qui est assis dans le fauteuil de maire de Paris est quelqu'un de puissant.
Sur ces visites systématiques justement des chefs d'État étrangers, quand il s'agit de visites d'État, du coup ça donne une forme d'envergure internationale au maire ou à la maire de Paris. Ça va être encore plus le cas sans doute pour le prochain mandat, puisque celui qui sera le vainqueur ou la vainqueur de ces élections sera celui qui organisera les Jeux de 2024 à Paris, Bertrand Gréco.
Ah oui, bien sûr, alors ça c'est une visibilité supplémentaire, les Jeux Olympiques. Ça, on peut le mettre au crédit d'Anne Hidalgo, mais effectivement, ce sera peut-être pas elle qui tirera les marrons du feu. Mais même en dehors des Jeux Olympiques, la visibilité de Paris est la ville la plus visitée au monde par les touristes. Et donc,
Alors ça dépend des classements. Hein. Certains disent que c'est Londres. J'ai même vu que Bangkok était devenue aujourd'hui la ville qui attirait le plus de touristes. Peut-être qu'ils restent moins longtemps, qu'ils sont juste de passage. Mais enfin bon.
Ouais, il y a peut-être une bataille, mais enfin, en tout cas, Paris est dans le top sur le plan du tourisme. Et il suffit que le maire de Paris décide de piétonniser les voies sur berge, de faire Paris plage, par exemple avec Bertrand Delanoë, pour que les journaux du monde entier s'en fassent l'écho, du New York Times aux journaux chinois. Donc le retentissement de la politique parisienne est incommensurable avec n'importe quelle autre ville française et même d'autres villes du monde.
Est-ce que c'est ce qui peut expliquer qu'un certain nombre de grandes figures politiques nationales aient eu envie un jour de devenir maire de Paris? Dans votre histoire secrète d'une élection capitale, vous vous rappelez qu'il y a eu Philippe Séguin, Dominique Strauss-Kahn, Jack Lang, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous le disiez tout à l'heure, ou encore François Fillon?
Oui, bien sûr, c'est cette visibilité. Et puis aussi parce que Jacques Chirac l'a démontré, Paris peut être un tremplin vers l'Élysée. Jacques Chirac, entre 1977 et 1995, a utilisé l'Hôtel de Ville, cette énorme machine dont je parlais, comme base arrière pour préparer son arrivée à l'Élysée. Donc, et Bertrand Delanoë y a rêvé lui aussi à un moment donné. Il a ambitionné de prendre le PS en déposant une motion dans l'idée de se présenter à l'Élysée un jour.
Cette idée d'aller voir quelques hectomètres plus loin du côté de l'Élysée, c'est aussi quelque chose qui est présent, vous qui suivez de près, Bertrand Gréco, la politique parisienne, qui est présent chez Anne Hidalgo aujourd'hui, l'idée que peut-être elle pourrait devenir un recours pour le Parti Socialiste.
De fait, Anne Hidalgo est une des personnalités les plus en vue à gauche, parce qu'elle est maire de Paris. On peut citer Martine Aubry ou les noms à gauche qui sortent du lot sont assez rares. Je pense à Christiane Taubira.
Faut dire qu'il y a eu beaucoup de disparus hein, à gauche.
Oui, voilà. Bon, on connaît l'état de la gauche aujourd'hui, et donc Hidalgo pourrait apparaître comme un recours. Est-ce qu'elle a l'ambition de la présidentielle aujourd'hui? J'en suis pas certain. Je pense pas qu'elle en ait les moyens de toute manière, vu sa cote de popularité. Mais si elle est réélue, pourquoi pas? C'est quelque chose qui n'est pas du tout à exclure.
Si elle est réélue, alors elle va devoir d'abord affronter, je le disais au début de cette émission, de nombreux opposants qui ont la dent dure. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez suivi plusieurs campagnes, que celle-ci s'annonce particulièrement féroce à l'égard de la titulaire du poste? Est-ce qu'on a déjà vu autant d'anti-chiraquisme, d'anti-Delanoë, lorsque on était aux précédentes municipales, Bertrand Gréco?
Les précédentes municipales ont toutes été dures. Mais c'est vrai que celle-ci a revêt un caractère particulier dans le sens où, effectivement, Anne Hidalgo est l'objet de nombreuses critiques, pour pas dire plus. On a parlé d'Hidalgo bashing.
Ça vous semble justifié, d'ailleurs, comme expression? Hidalgo bashing?
L'expression, ouais. Oui, elle a vraiment été extrêmement critiquée. Au sens, oui, on peut parler d'Hidalgo bashing. Certaines critiques sont justifiées, beaucoup ne le sont pas. Et je pense pas, d'ailleurs, que si Bertrand Delanoë, par exemple, avant elle, a également été critiqué, je ne pense pas que ça ait atteint ce niveau-là.
L'expliqueriez? Le fait que ça soit une femme, ça joue? Ou bien il y a aussi des éléments peut-être plus objectifs dans son bilan, dans son action, qui font que ça crispe particulièrement ses opposants?
Je pense que le fait qu'elle soit une femme n'est pas complètement indifférent. Avoir une femme à un poste aussi puissant, peut-être que ça doit déranger consciemment un certain nombre d'hommes politiques. Son bilan n'est pas complètement négatif. Et d'ailleurs, il n'est pas jugé complètement négativement par les Parisiens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis ensuite, il y a un clivage assez important. Donc, juger le bilan d'Anne Hidalgo doit se faire à l'aune de ce clivage.
S'agissant de sa stature internationale, Anne Hidalgo, elle préside une organisation qui s'appelle le C40, qui regroupe 40 des plus grandes villes du monde qui sont engagées...
90, enfin un peu plus de 80, près d'une centaine.
Ça s'appelle C40, mais c'est parce qu'il y a peut-être eu de nouvelles villes qui sont arrivées après.
Ça a démarré par 40 villes.
Voilà, et qui sont engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que justement, alors, les questions environnementales qui sont au cœur du débat politique nationale et internationale, elles sont aussi et elles seront aussi au cœur de cette campagne des municipales à Paris?
Ça me semble évident, oui. C'est une préoccupation des Français, on le sait, mais encore plus des Parisiens qui sont peut-être à cause de la sociologie parisienne, encore plus impliquée sur ces questions-là. On l'a vu aux dernières élections européennes au mois de juin, la liste d'Europe Écologie Verte est arrivée, pas en tête, mais à faire un très bon score de 20%. Et tous les partis, tous les autres partis ont pris le thème de l'écologie comme un thème prioritaire. Donc ce sera forcément un thème central de cette campagne.
Ce n'était pas le cas des précédentes campagnes pour Bertrand Delanoë, Jean Tiberi ou Jacques Chirac. Ça se portait sur quoi les grands enjeux des municipales à Paris dans les précédents scrutins?
Jacques Chirac s'est fait élire sur la propreté essentiellement. On se souvient des motocrottes. Delanoë, Bertrand Delanoë, enfin je passe Jean Tiberi, dont le mandat a surtout été marqué par l'affaire des faux électeurs, mais bien qu'il ait... Il n'est pas été complètement inactif.
En termes de bilan, est un peu maigre quand même.
Oui, non, bon, je suis sévère. Il a quand même fait des choses. Il a préparé le travail pour Bertrand Delanoë, en fait. Et le bilan de Bertrand Delanoë est marqué par essentiellement par la réduction de la place de la voiture, le commencement de la réduction de la place de la voiture qu'a poursuivi en l'intensifiant en Hidalgo. Le tramway, le Vélib, Autolib.
Donc ça, ça a été un peu, on va dire, les points d'ancrage et de clivage des élections municipales. C'est-à-dire, c'est toujours sur des questions un petit peu autour du mode de vie, mais ce qui est finalement assez classique dans des municipales que ça se joue. Bertrand Gréco.
Oui, bien sûr. Ça reste une élection municipale, hein, comme dans n'importe quelle autre ville. Les électeurs votent essentiellement pour des questions qui concernent leur quotidien. Sur la transition écologique dont vous parliez, je pense qu'il y a une prise de conscience assez récente des habitants, qui est un peu plus ancienne à Paris, sans doute, que les questions écologiques concernent le quotidien des habitants. On le voit l'été avec la canicule, on le voit quotidiennement quasiment avec la pollution atmosphérique. Et cette prise de conscience est vraiment prégnante et tous les candidats, sans exception, en font un sujet majeur.
Alors, s'agissant de Jacques Chirac, dont vous évoquiez une des grandes innovations, les motocrottes, hein, en matière de propreté, il y avait aussi l'idée que de dépolluer la Seine, en tout cas d'être en mesure de s'y baigner d'ici, alors je sais plus si c'était la fin de son mandat et qu'il l'avait promis, ça n'a pas eu lieu,
oui,
c'est ça?
C'est, hein, ça, oui, non, pendant la campagne de 88, dans les 5 ans, à la fin de son mandat, en 95.
En tout cas, on peut dire qu'il reste... Jusqu'à ce jour, le maire emblématique de cette ville, ne serait-ce parce que c'est lui qui détient le record de la durée du mandat, 18 ans, 1 mois et 26 jours. Eh bien, écoutons Jacques Chirac lors de sa déclaration de première candidature. C'était le 19 janvier 1977.
À Paris, l'heure n'est plus aux négociations de couloirs, ni aux compromis de partis. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution est de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. En conséquence, et fidèle à l'engagement que j'ai pris de combattre partout les dangers du collectivisme, j'ai décidé de me présenter à Paris, à la tête de tous ceux qui se rassemblent pour mener le même combat. Une fois encore, le peuple de Paris, j'en suis sûr, saura donner l'exemple.
Voilà Jacques Chirac, le 19 janvier 1977, c'est une archive INA, c'est assez savoureux, hein, alors je reviens quand même sur cette phrase. « Fidèle à l'engagement que j'ai pris de combattre les dangers du collectivisme, j'ai décidé de me présenter à Paris. » Bertrand Gréco, je rappelle que vous êtes journaliste au Journal du Dimanche, que vous y suivez l'actualité politique parisienne. Il y a eu un projet, une époque, d'installer des colcoses à Paris qui auraient justifié la candidature de Jacques Chirac?
J'en ai pas connaissance, mais je pense qu'en réalité, ça... La candidature était surtout motivée par sa guerre personnelle qu'il menait contre Valéry Giscard d'Estaing, le président en place.
Oui, parce que lui n'était pas le candidat du pouvoir, hein. Ils étaient déjà bien fâchés.
On se souvient que Jacques Chirac a quitté Matignon à l'été 76. Il a créé le RPR et dans la foulée, cette archive que vous venez de diffuser le raconte, il s'engage dans la mairie de Paris pour... dans la bataille de la mairie de Paris, lui qui était président du conseil général de Corrèze. Et donc, son objectif était de contrer le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Dornano, qui lui était maire de Deauville.
Il l'a réussi. Hein.
Il a réussi son pari et il en a fait un lieu de contre-pouvoir.
Sachant que, Quelques temps plus tôt, il avait plutôt manifesté l'idée inverse, hein, en disant « Le caractère très spécifique de la ville de Paris ne permet en aucun cas d'envisager un maire élu. » Il n'était pas le seul d'ailleurs à le penser, hein, c'est-à-dire pendant longtemps, on a considéré que Paris, du fait de ses spécificités, notamment le fait d'avoir un grand nombre de lieux de décision, de pouvoir national, ne pouvait pas être une ville tout à fait comme les autres, Bertrand Gréco.
Oui, il y a toujours eu une méfiance du pouvoir central envers la mairie de Paris. C'est la raison pour laquelle Paris n'a pas connu de maire pendant un siècle jusqu'à l'élection de Jacques Chirac en 77. Il faut se rappeler que toutes les révolutions qui sont nées à Paris ont démarré autour de l'Hôtel de Ville. Et les quelques maires que Paris a eus entre la Révolution française et l'élection de Jacques Chirac, qui sont restés quelques mois chacun, tous ces maires-là ont été élus à des moments de crise révolutionnaire.
Et ça veut dire aussi que pendant longtemps, du coup, c'est un pouvoir qui a été très encadré par les services de l'État, par le préfet, avec des compétences qui longtemps ont échappé au maire de Paris. Les questions de maintien de l'ordre, bien sûr. Alors ça l'est toujours. Bertrand Gréco, c'est ça?
Les pouvoirs de police. Le maire de Paris récupère peu à peu, depuis quelques années, des pouvoirs de police, là récemment encore, mais pas l'intégralité des pouvoirs de police d'un maire. Toutes les questions de criminalité restent entre les mains du préfet de police. D'ailleurs, Paris a un préfet de police.
Et un préfet de police particulièrement puissant, visible, qui est aussi un homme de pouvoir dans cette ville où sont concentrés de très nombreux pouvoirs. Il y a quand même un nouveau statut de la ville de Paris qui est assez récent. Il y a une loi qui a été votée le 28 février 2017. Ça change quoi pour cette ville, Bertrand Gréco?
Paris récupère quelques pouvoirs, c'est ce que je vous disais, de verbalisation, de circulation, de stationnement, de nuisance du quotidien, etc. L'autre changement, c'est que Paris a la particularité d'être à la fois une ville et un département. Au Conseil de Paris, le président de séance, le maire, avait l'habitude de sonner une petite clochette pour passer des questions liées à la ville aux questions liées au département. C'est un petit rituel un peu désuet.
C'est-à-dire avec la même assemblée?
Voilà, avec la même assemblée. Les conseillers de Paris, qui sont à la fois conseillers municipaux et conseillers départementaux. Cette réforme de 2017 a permis de fusionner les deux. Donc ça simplifie un peu les choses. Et la troisième mesure de cette réforme, c'est la fusion des quatre arrondissements du centre, le premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement, qui deviennent un seul secteur. Donc ce sera une première aux élections municipales de 2020. On n'aura plus quatre maires d'arrondissement, mais un maire de secteur.
Qui sont des arrondissements qui ont plutôt eu tendance au fil des années à voter à droite plutôt qu'à gauche. Bertrand Gréco, est-ce qu'on peut y voir une manipulation à visée électorale pour réduire peut-être le poids de la droite et permettre à la gauche de passer, ou ça n'a rien à voir?
C'est évidemment une accusation qui est formulée par l'opposition, mais en réalité, seul le premier arrondissement est aujourd'hui à droite. Les trois autres, le deuxième est le seul arrondissement écolo d'Europe Écologie Les Verts à Paris, et les deux autres sont à gauche.
Ce qui donne une idée aussi des évolutions sociologiques de cette ville. C'est-à-dire qu'on a vu la population changer beaucoup. On parle beaucoup d'ailleurs aussi depuis quelques temps de tous ces touristes qui viennent profiter des appartements qui sont sous-loués pour pouvoir visiter la ville, avec certains quartiers qui se videraient de leurs habitants. Mais en tout cas, le Paris et les Parisiens en tout cas de 2019 n'ont plus grand-chose à voir avec ceux qui ont voté pour Jacques Chirac en 1977.
Alors, il y avait évidemment une gentrification que tout le monde peut constater, qui est liée au prix de l'immobilier, qui vient de dépasser les 10 000 euros du mètre carré, avec des pointes à 16 000 euros dans certains quartiers de l'Ouest parisien.
10 000 euros, c'est la moyenne. Hein.
C'est la moyenne sur Paris.
C'est faramineux, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est bien au-delà de 10 000.
16 000 euros vers Saint-Germain-des-Prés. Dans les quartiers les moins chers, on est autour de 8 000 euros. Donc, se loger à Paris est très difficile pour les classes populaires, d'où cet embourgeoisement, cette gentrification, qui est tout de même compensée par le nombre de logements sociaux qui, lui, augmente et qui permet aux classes populaires de se maintenir un petit peu. J'ajoute que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le nombre de Parisiens qui vivent sous le seuil de pauvreté est plus élevé que le nombre de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté proportionnellement. Donc Paris est une ville de riches, comme on peut le penser, mais aussi une ville de pauvres, une ville très mélangée, et qui est une ville qui est caractérisée par un clivage extrêmement fort sur tous les points de vue, en fait. Une ville très divisée.
Alors je voudrais qu'on revienne sur la dimension un peu historique de cette ville. Vous vous rappeliez tout à l'heure que pendant une très longue période, Paris n'a pas eu de maire, Bertrand Gréco. Le premier, c'est à partir de la Révolution française, et puis tout va s'arrêter en 1871. Il y aura des interruptions d'ailleurs entre ces deux moments. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Si ça s'arrête en 1971, eh bien c'est parce que la Commune de Paris est passée par là.
Oui, la Commune et un certain nombre d'événements révolutionnaires qui ont marqué la grande histoire de la capitale. Alors c'est l'écrivain Alain Rustenholz qui nous l'explique. Jusqu'à la fin du 19e siècle, Paris n'a eu un maire que pendant ces périodes insurrectionnelles.
La magistrature suprême à Paris, le fait d'avoir un maire à Paris, je dirais strictement calé, lié sur la Révolution. Pas sur la République, puisqu'on sait que la troisième en grande partie, la quatrième, la cinquième, se sont aisément passées d'un maire. Il y a maire uniquement pendant les périodes révolutionnaires. À commencer par Bailly dès le lendemain de la prise de la Bastille. Et c'est pas un hasard, parce que la prise de la Bastille, c'est pas seulement la Révolution française, c'est aussi une émeute parisienne, peut-être d'abord une émeute parisienne. Et pendant toute la Révolution, c'est-à-dire jusqu'à Thermidor, donc pendant 5 ans, il y a un maire à Paris. Et puis fini après Thermidor. Il n'y a de nouveau un maire pendant 5 mois qu'à une nouvelle Révolution, celle de 48. Et puis de nouveau, fini, on en retrouve un que... en 1870-71, après la résistance parisienne contre la guerre prussienne et la Commune de Paris. Et puis, il faut attendre, effectivement, 1977.
Et en dehors de ces respirations démocratiques, la capitale de la France a été administrée donc par des préfets, dont l'emblématique baron Haussmann, préfet de la Seine sous le Second Empire. Et c'est bien l'État, à cette époque, qui décide de ce qui est bon pour les habitants de la capitale.
C'est Haussmann qui écrit clairement que la capitale de la France n'a pas à avoir de manufacture ni d'atelier, qu'il faut jeter tout ça de l'autre côté du mur, d'un mur de l'argent, puisqu'il écrit également très clairement que le montant des loyers et la cherté de la vie, il faut cesser de lutter contre, parce que ce sont de très bons moyens d'empêcher les ouvriers de province de venir s'installer dans la capitale. Donc il y a une volonté très nette de désindustrialisation de Paris, de mettre tout ça en banlieue. La Troisième République va y mettre les grands cimetières parisiens, les usines de traitement des eaux, les incinérateurs d'ordures... Les ouvriers se sont effectivement retrouvés en banlieue, qui a repris à son compte le rouge qui a été celui de Paris lors des révolutions du XIXe siècle.
Voilà, toute ressemblance avec l'époque actuelle serait purement fortuite. C'était donc l'écrivain Alain Rustenholz, à qui on doit notamment un ouvrage consacré au Paris ouvrier. C'est le titre de cet ouvrage, publié en 2012 aux éditions Parigramme.
Il m'a semblé entendre un peu d'ironie, Antoine Dulster, dans votre conclusion. Bertrand Gréco, donc Alain Rustenholz, a expliqué comment une partie de la population avait été mise à l'écart de Paris, la banlieue, on la met au banc. Il y a ce mur qu'il évoque, qu'on pourrait dire aujourd'hui être constitué par le fameux périphérique parisien. Ça a permis d'ailleurs à un des candidats, on verra s'il l'aura jusqu'au bout, Gaspard Ganzer, de lancer sa campagne en disant on va supprimer le périphérique. Et je rappelais en début d'émission que vous co-dirigez un magazine qui s'appelle Grand Paris Développement. Est-ce que avec le Grand Paris, alors dont on voit bien qu'il a du mal un petit peu à se constituer, mais ça va changer la configuration justement de la capitale?
L'idée du Grand Paris, c'est de faire Paris en plus grand et donc effectivement de gommer cette frontière du périphérique, de construire des logements, d'accueillir davantage de population en dehors de cette frontière qui fait que Paris est une des capitales les plus petites du monde, 105 km², c'est vraiment tout petit. Et donc la ville est prisonnière de cette enceinte, ce qui permet d'élargir, comme on l'a fait historiquement à chaque fois avec l'enceinte de Thiers, etc. Paris n'a cessé de s'élargir en cercle concentrique. Et donc voilà, l'idée du Grand Paris, c'est on habite à Aubervilliers ou au Kremlin-Bicêtre, on est parisien quand même.
Est-ce que l'idée, du coup, ça serait de continuer cette extension et de voir Paris absorber petit à petit des communes périphériques et donner du coup à celui qui, ou celle qui dirige la ville encore plus de pouvoir qu'aujourd'hui?
Est-ce qu'on aura un maire du Grand Paris? On n'en est pas du tout là. Sous la Troisième République, on pouvait absorber les communes voisines et prendre le pouvoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. La décentralisation est passée par là. Aujourd'hui, le Grand Paris, c'est une intercommunalité, en réalité. Une assemblée de maires qui peut avoir plus de pouvoir, qui peut évoluer. On attend d'ailleurs un Big Bang institutionnel promis par le président de la République, qui n'arrive pas.
Pour quelle raison d'ailleurs? Parce que les élus locaux, les communes sont un peu réticentes à ça, ou c'est plutôt le pouvoir exécutif qui freine un peu des pieds?
Parce que oui, c'est le frein vient évidemment des élus. Si le pouvoir central freine des pieds, c'est parce qu'il se rend compte de la complexité de la tâche. Fâcher des élus locaux, c'est pas forcément toujours facile à gérer. On l'a vu par le passé.
Il peut aussi peut-être se méfier de voir une entité très puissante voir le jour et peut-être concurrencer aussi ce qui est le niveau national du pouvoir.
Peut-être. Enfin, en tout cas, avant de se faire élire président de la République, Emmanuel Macron plaidait pour un Grand Paris plus fort, ce qu'il n'a pas encore réalisé.
Dernière question, Bertrand Gréco. Donc, les municipales, c'est au mois de mars prochain. On va beaucoup regarder les résultats de Paris. Est-ce qu'on n'a pas tendance, par centralisme, à vouloir donner une signification un peu trop large, un peu trop nationale aux résultats du vote dans cette ville? Je pense par exemple au précédent scrutin, lorsque Anne Hidalgo est élue, on en fait presque une victoire pour la gauche, alors que la gauche ne porte pas si bien que ça dans les autres grandes villes de France.
C'est vrai que Paris vote souvent au municipal contre le vote national. Je sais pas si c'est en opposition, mais en tout cas, il y a souvent un contraste, ce qui permet effectivement, lors des dernières élections, notamment à la gauche, de limiter la casse, on va dire. Mais oui, évidemment, c'est ce qu'on disait au début de notre entretien, la force de Paris fait que c'est une question qui intéresse l'ensemble des Français. Les questions purement locales n'intéresseront sans doute pas les Marseillais ou les Strasbourgeois, mais par contre l'enjeu que reprend cette élection dépasse largement les frontières parisiennes.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Gréco. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'histoire secrète d'une élection capitale. C'était en 2014 aux éditions du Moment. On peut imaginer qu'il y aura aussi un livre pour la prochaine campagne des municipales de 2020. Puis je rappelle par ailleurs que vous êtes journaliste au Journal du Dimanche. Voilà, Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisé par Séverine Cassard avec la prise de son Pierre Faucillon. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. À 2h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.